Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 19 décembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, incertitude hier à Kinshasa, à la veille de la fin officielle du deuxième mandat du président Joseph Kabila. Déploiement de la police et de l'armée dans la capitale.
Élection législative hier dans le calme en Côte d'Ivoire.
Au Soudan, l'opposition maintient son mot d'ordre de grève ce lundi contre les réductions de subventions au carburant.
Nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui sur un nouveau projet de résolution sur le bon déroulement des évacuations des civils et rebelles des quartiers est d'Alep.
Ici aux États-Unis, le collège électoral va de manière quasi certaine désigner aujourd'hui Donald Trump comme 45e président du pays.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Kinshasa a vécu dans l'incertitude à la veille du 19 décembre, date qui marque, selon la Constitution, la fin du mandat de Joseph Kabila. Policiers et militaires sont visibles dans tous les grands carrefours de la capitale de la RDC. Et face à l'incertitude, la population a également pris d'assaut les supermarchés et autres boutiques de la ville pour s'approvisionner. Le point avec Roger Kalala de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
En attendant le passage de la journée du 19 au 20 décembre à Kinshasa, on passe des moments de suspense. Des policiers et des militaires sont visibles dans les grands carrefours de la ville comme la place Victoire à Matongé et le rond-point Gaba, non loin de l'université de Kinshasa. La police a appelé la population à ne pas avoir peur du dispositif sécuritaire mis en place et avant coupure des réseaux sociaux programmés dimanche à minuit, les internautes ont partagé plusieurs messages. Certains ont voulu avertir les amis et membres de famille sur certaines dispositions à prendre pour rester en contact. D'autres voulaient se renseigner et avoir les dernières nouvelles du pays. Pendant ce temps, certains parents en famille qui pensent que le pays risque de plonger dans la violence ont effectué quelques courses pour faire le stock des denrées et autres produits de première nécessité comme réserve de la famille. Kinshasa, Roger Kalala de Top Congo pour La Voix de l'Amérique.
En Gambie, l'opposition a annoncé hier que le président Yahya Jammeh sera déclaré renégat s'il refuse de céder le pouvoir à la fin de son mandat en janvier. Tout président qui perd sa légitimité constitutionnelle devient un renégat, a déclaré Khalifa Sala, porte-parole de la coalition d'opposition qui a porté Adama Barrow au pouvoir lors de la présidentielle du 1er décembre. Dans une déclaration télévisée le 9 décembre, Yahya Jammeh, qui gouverne la Gambie d'une main de fer depuis 22 ans, a rejeté les résultats de l'élection accordant la victoire à Adama Barrow une semaine après avoir pourtant reconnu sa défaite.
Les Ivoiriens ont voté dans le calme hier pour élire leurs députés. Plus de 6 millions d'électeurs inscrits étaient appelés aux urnes pour choisir 255 députés à l'Assemblée nationale parmi 1337 candidats. Le président Alassane Ouattara espère une solide majorité pour achever son deuxième et dernier mandat. Le point avec Koita Makalou de la radio Albayan, partenaire de La Voix de l'Amérique à Abidjan.
Bonjour d'abord à tous les auditeurs de la VOA. Et de façon globale, pas assez d'affluence jusqu'à 10h où moi je suis allé voter, 11h, 12h. Ce que j'ai vu sur le terrain, il n'y avait pas assez d'affluence. Selon un technicien de l'ASE, il faut d'abord la transmission d'un grand nombre de circonscriptions avant d'annoncer les résultats ville par ville. Donc on peut attendre jusqu'à 24h, 48h avant que la CEI, qui est l'organe qui est habilité à annoncer les résultats. En cela, samedi, le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, a fait une déclaration radio-télé. Il dit, je cite, « La commission électorale indépendante est la seule entité à proclamer les résultats provisoires et définitifs du scrutin législatif. » Fin de citation. Les enjeux, c'est toujours consolider les institutions de la République après l'élection présidentielle de 2015 et récemment avec l'adoption d'une nouvelle constitution. Il faut maintenant partir pour renouveler l'Assemblée nationale constituée de 255 sièges pour 1337 candidats pour encore permettre à notre pays de bien fonctionner comme un pays normal.
Koita Makalou de la radio Albayan, partenaire de VOA Afrique à Abidjan.
Au Tchad, l'ancien Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, est interdit de sortie du pays. Il devait se rendre à Yaoundé au Cameroun hier pour participer à un colloque scientifique, mais il a été refoulé à l'aéroport par les agents du service de sécurité. Ces derniers, selon eux, il n'est pas autorisé à sortir de N'Djamena.
Au Soudan, l'opposition a maintenu son mot d'ordre pour un mouvement de grève ce lundi contre les réductions de subventions au carburant. Le président Omar al-Béchir leur a déjà lancé une sévère mise en garde, Jean-Roger Bion.
Le parti d'opposition Ouma appelle à un mouvement de désobéissance civile ce lundi. Des membres de la société civile ont exprimé sur les réseaux sociaux leur soutien à un tel mouvement et lancé une pétition pour la grève. Le mouvement de libération du Soudan dans les états du Nil bleu du Kordofan Sud a demandé à ses partisans de suivre le mot d'ordre. Ces dernières semaines, plusieurs manifestations ont eu lieu contre la hausse de 30% des prix du carburant. Ces rassemblements ont été rapidement dispersés par la police anti-émeute. Fin novembre, un appel pour une grève de 3 jours avait été partiellement suivie. La semaine dernière, le président soudanais Omar al-Béchir avait prévenu que toute tentative de renverser son régime serait sévèrement réprimée. En 2013, des heurts avaient éclaté après une hausse des prix suite à une réduction des subventions. Selon des organisations de défense des droits de l'homme, il y a eu près de 200 morts et moins de 100 d'après le gouvernement soudanais.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un nouveau projet de résolution visant à garantir le bon déroulement des évacuations des civils et des rebelles des quartiers est d'Alep, évacuation toujours suspendue par le régime syrien. À l'issue de longues consultations à huis clos hier à New York, les 15 membres du Conseil de sécurité sont parvenus à un compromis pour amender un texte présenté par la France et menacé de veto par la Russie. Selon la dernière mouture du projet obtenu par l'AFP, le texte demande à l'ONU et à d'autres institutions pertinentes de superviser de manière adéquate et neutre et de surveiller directement les évacuations des quartiers est d'Alep. L'ONU devra pour cela déployer du personnel supplémentaire.
Le collège électoral, une particularité américaine, doit de manière quasi certaine désigner aujourd'hui Donald Trump comme 45e président des États-Unis. Le point avec Idriss Fall.
Les 538 grands électeurs se réunissent dans chacun des 50 États américains pour désigner le président et le vice-président. Donald Trump a gagné 306 grands électeurs, une nette majorité face à sa rivale Hillary Clinton qui a le plus de voix. Ce sera donc une simple formalité, M. Trump qui sera élu 45e président des États-Unis. Le résultat final pourrait ne pas être connu aujourd'hui car les États ont un délai de plusieurs jours pour communiquer leurs chiffres. Le Congrès annoncera le nom du président élu le 6 janvier à l'issue d'un décompte officiel des votes et la prestation de serment est prévue le 20 janvier. À l'issue d'une campagne d'une agressivité rare, cette étape du processus qui passe d'habitude inaperçue a un relief particulier cette année. Les critiques du collège électoral estiment qu'il va à l'encontre du principe « un homme, une voix ». Mais ce mode de scrutin typiquement américain date de la Constitution de 1787 et n'a jamais été modifié.
Au Yémen, 48 soldats ont été tués et 84 blessés hier à Aden, deuxième ville du pays. Le groupe État islamique a encore revendiqué cet attentat suicide. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Un kamikaze a fait détonner ses explosifs alors que près de 10 000 soldats et policiers étaient rassemblés pour recevoir leur solde près d'une base au nord-est d'Aden. Aussitôt sur Twitter, le groupe État islamique a affirmé que le martyr Abu Hashem al-Radfani a réussi à passer les barrages de sécurité et a fait détonner sa veste d'explosifs. Il y a 9 jours, une attaque similaire avait fait 48 morts parmi des soldats venus toucher leur pécule. D'ailleurs, jeudi dernier, Al-Qaïda a qualifié le groupe État islamique de déviant qui cherche à s'aimer la zizanie parmi les tribus yéménites. Déjà le 29 août, un autre kamikaze au volant d'une voiture piégée avait ciblé des jeunes recrues à Aden, faisant 71 morts. Les forces gouvernementales soutenues depuis mars 2015 par une coalition arabe sous commandement saoudien affrontent à la fois les rebelles chiites houthis qui contrôlent une partie du territoire, dont la capitale, Sana'a, et des groupes djihadistes bien implantés dans le sud et le sud-est du Yémen. La guerre au Yémen a fait plus de 7000 morts et près de 37000 blessés depuis près de 21 mois, selon l'ONU, et toutes les tentatives de résoudre le conflit par la négociation ont échoué jusqu'à présent.
La justice française se prononce aujourd'hui sur le sort de la patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, accusée d'avoir permis par négligence un immense détournement de fonds publics quand elle était ministre de l'économie. Christine Lagarde, ancienne avocate internationale âgée de 60 ans, risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Le parquet a toutefois requis une relaxe et son entourage à Washington affichait un certain optimisme à la veille de la décision. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Banque centrale du Mozambique a injecté 111 millions de dollars dans la Moza Banco pour la sauver de la faillite. Fin septembre, l'État avait annoncé l'avoir placée sous administration provisoire. En novembre, la fermeture d'une autre banque, la Nosso Banco, avait été annoncée. Le FMI et la Banque mondiale ont suspendu leurs prêts au Mozambique depuis un scandale de corruption. Un rapport du Centre de surveillance des déplacements internes estime à 14 millions le nombre de déplacés climatiques en Afrique entre 2009 et 2015. La sécheresse et les inondations sont les principales causes. Le Centre de surveillance estime par ailleurs à 17,8 millions le nombre de déplacés et réfugiés pour cause de guerre en Afrique en 2015. Selon un rapport de l'Union internationale des télécommunications sur le niveau de développement des TIC et télécoms dans 175 pays, Maurice demeure le champion en Afrique, 73e au niveau mondial. Viennent ensuite les Seychelles et l'Afrique du Sud, tandis que le Niger et le Tchad sont derniers au plan mondial.
À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Mondial des clubs et le Real Madrid remportent le trophée.
C'est grâce à Cristiano Ronaldo que les Merengues ont soulevé cette coupe devant les Japonais de Kashima Antlers. Score 4-2. Un triplé du récent Ballon d'Or France Football qui remporte ainsi sa troisième coupe en 2016. Ligue des champions, Euro et Mondial des clubs.
Football sur le continent, sur le sable cette fois. Le Sénégal a remporté hier la CAN de Beach Soccer.
À Lagos, au Nigeria, les Lions de la Teranga se sont imposés en finale face au pays hôte. Victoire 8-4. Battus en finale de la première édition en 2015 par Madagascar, ils ont pris leur revanche et se qualifient du coup pour le prochain mondial qui aura lieu aux Bahamas. Pour la petite finale, l'Égypte a eu raison du Maroc 4-1.
Toujours en football, événement à Dakar avec un match de bienfaisance porté par El Hadj Diouf.
Oui, l'ancien capitaine du Sénégal a réuni ses amis de la génération 2002, quart de finaliste du mondial au Japon et en Corée du Sud. La recette du match a été reversée à une association qui lutte contre la sous-vaccination des enfants en Afrique. D'autres stars ont pris part à cette rencontre, tel Nicolas Anelka. Et à l'arrivée, ce sont les amis d'El Hadj Diouf qui l'ont emporté sur la marque de 2-1.
L'actualité au Togo, c'est la boxe et Prince Lorenzo qui conserve sa couronne mondiale GBC des poids moyens.
Victoire par KO pour Kwame Foli Kwega alias Prince Lorenzo. Il s'est imposé sur le Georgien Patra Vadouashli à la 4e reprise. 13e victoire, la 9e par KO pour le Togolais devant son public à Lomé.
Cyclisme avec le Tour de Madagascar. Remporté par un Français.
Son nom, Vincent Grazik, il termine en tête à l'issue de cette édition de 2016 courue en 9 étapes. Un critérium de 90 km a clôturé ce tour qui a vu ce Français classé 2e lors de la précédente édition devancer le Malgache Mazoum Rakoutavoun. Et puis, du basketball pour terminer, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA.
San Antonio, New Orleans, 113-110. Philadelphia, Brooklyn, 108-107. Orlando, Toronto, 79-109. Miami, Boston, 95-105. Memphis, Utah, 73-82, Washington et les Clippers, 117-110, et Dallas, Sacramento, 99-79.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'accord tant attendu avant le 19 décembre n'a pas été signé et les évêques de la CENCO ont renvoyé à mercredi les discussions. Si côté opposition, on parle d'un échec et on appelle la population à s'assumer, côté majorité présidentielle, on reste confiant quant à l'aboutissement heureux des travaux. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Toujours pas de fumée blanche au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo où se déroulent les discussions entre les signataires de l'accord du dialogue facilité par Edem Kodjo d'une part et le rassemblement de l'opposition ainsi que le Front pour le respect de la Constitution de l'autre. Alors que la plénière du samedi 17 décembre dernier était censée valider les rapports des trois commissions mises en place par les évêques, c'est au contraire d'importantes divergences qui ont été révélées par les délégués de l'opposition pour qui un accord est très loin d'être signé. Félix Tshisekedi est délégué du Rassemblement.
Sur la Constitution, le Rassemblement et le Front constatent qu'il subsiste des divergences profondes concernant la fin du mandat du président de la République, le fonctionnement des institutions après le 19 décembre 2016, l'engagement des parties prenantes à ne pas réviser la Constitution dans ses dispositions verrouillées par l'article 220 ou de changer de Constitution, l'engagement du président Kabila à ne pas briguer un troisième mandat. Sur le processus électoral, aucun accord n'a été trouvé concernant la séquence des élections, le calendrier électoral ainsi que la restructuration de la CENI. S'agissant particulièrement de l'élection présidentielle, le Rassemblement et le Front soutiennent que celle-ci peut se tenir et doit se tenir impérativement en 2017. Le Rassemblement et le Front note que toutes les propositions constructives qu'ils ont avancées pour résoudre tous les points de divergence ont été systématiquement rejetées par les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine.
Même inquiétude à la société civile. Georges Kapiamba est délégué de la composante société civile.
Nous constatons que dans toutes les commissions, les questions les plus importantes n'ont toujours pas trouvé de solution. Quand vous prenez la commission sur les mesures de décryption, s'il est vrai que le principe a été acquis pour que les sept cas emblématiques de Moïse Katumbi, Diomine Dongala, Jean-Claude Muyambo, Moïse Monidela, Antipas Mbusa, Roger Lumbala et Floribert Anzuluni, que ces cas soient traités en urgence, mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas toujours de solution, de garanties sérieuses pouvant nous rassurer que les poursuites engagées contre les uns ou les condamnations contre les autres pourront être abandonnées.
À la majorité présidentielle, par contre, on n'est pas du même avis. Alexis Tambwe Mwamba, ministre sortant de la justice, se montre plutôt optimiste et annonce même la mise en place d'une commission en charge d'examiner les cas des opposants, soit condamnés, soit en exil, pour décrisper la tension politique.
Ces hauts magistrats vont commencer à siéger à partir de lundi. Le président de la République a reçu et m'a transmis une liste de 83 cas qui lui a été remise par les évêques. Donc nous allons de l'avant. Et j'ai mis en place la commission des hauts magistrats aujourd'hui. Il n'y a pas de blocage. Nous respectons la Constitution et après le 19 décembre, le pays existe. Les pouvoirs continuent à fonctionner et nous continuons à discuter.
Pendant ce temps, à Rome, lors de l'Angélus du dimanche 18 décembre, le pape François a appelé les fidèles catholiques à prier pour que le dialogue politique en République démocratique du Congo se déroule, je cite, « avec sérénité pour éviter tout type de violence pour le bien de tous les pays ». Fin de citation. Les travaux reprennent ce mercredi 21 décembre après le retour des évêques de Rome. Mais d'ici là, de nombreuses questions et incertitudes planent sur la ville en ce 19 décembre 2016. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, les travailleurs de la société minière Pan African Minerals SA ont dénoncé vendredi dernier ce qu'ils ont appelé l'inaction du gouvernement face au drame social et économique qui se profile, disent-ils, après leur licenciement par l'entreprise. Ils ont donné une conférence de presse pour interpeller le président du Faso de Ouagadougou. Les détails avec notre correspondant Issa Napon.
Entouré de ses principaux lieutenants, le représentant des travailleurs de la Panafricaine Minérale et de Panafricaine Tambao SA n'a pas mâché ses mots. Pour lui, il y a une sorte de négligence de l'État vis-à-vis de leur situation, conséquence de la suspension de la licence de leur entreprise qui travaillait à l'exportation de manganèse de la mine de Tambao afin d'éponger les reliquats des droits des travailleurs. Le Parlement ayant ordonné le retrait de la licence de la société, les travailleurs de Panafricaine Minérale et Panafricaine Tambao SA s'émeuvent en conférence de presse, leur représentant Cassia Salifou.
Les propositions que le Parlement fait, c'est des propositions qui ne sont pas réalistes. Parce que ça va conduire inévitablement le Burkina dans un drame économique et social. Nous l'avons dit depuis l'année dernière. Par la faute du gouvernement, lors des suspensions qu'on a connues l'année dernière, il y a eu un licenciement massif. Le paiement des droits, c'était 20% au moment du licenciement et le reste, 80%, était prévu pour être payé lorsque le minerai que la société a extrait et qui se trouve actuellement à Kaya et à Tambao serait vendu. La société nous aurait fait comprendre que c'est le gouvernement qui refuse que le minerai soit vendu. Nous avons écrit au ministre, il n'y a pas eu de réponse. Nous avons écrit au Premier ministre, il n'y a pas eu de réponse. On s'est même adressé aussi à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et aujourd'hui, nous l'interpellons encore.
La reprise pour acheminer le minerai à l'exportation, autorisée sous la transition, est bloquée net cette année. Les travailleurs criant ainsi à l'acharnement.
Le gouvernement de la transition a compris que c'était véritablement un risque de drame économique et social. Ils ont reculé finalement, ils ont levé les suspensions en décembre 2015. Maintenant, nous sommes surpris de voir que les parlementaires qui sont censés nous représenter et qui savent les conditions dans lesquels on peut retirer un permis d'exploitation, nous sommes surpris de voir que c'est eux qui viennent proposer au gouvernement de retirer le permis. Nous disons non, c'est une façon de vouloir liquider peut-être nos emplois ou encore de retarder encore l'arrêt de nos emplois. Pendant ce temps, les travailleurs souffrent, leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école, les gens ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas se soigner.
Une affaire loin d'être proche de son dénouement quand le gouvernement burkinabé garde encore le silence, occupé qu'il est à l'urgence du défi sécuritaire actuel imposé au pays. Ils sont 73 personnes à être à la rue depuis 2015 et plus de 2000 emplois directs et indirects qui prennent ainsi un coup d'arrêt. Les travailleurs, à travers leurs représentants, entendent exploiter toutes les voies de droit à leur disposition avant d'envisager une quelconque autre forme d'action afin de se faire entendre. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Niger, tenu le week-end dernier à Agadez, de la 10e édition du Festival international de la mode africaine FIMA, du célèbre créateur nigérien Alfadi. Elle a regroupé cette 10e édition des créateurs et mannequins venus d'un peu partout dans le monde. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Sur les deux jours du festival, des mannequins venus d'une trentaine de pays ont défilé dans la joie.
Je suis Tamakloé Edna du Togo. Je suis contente de participer au 10e édition de FIMA.
Je m'appelle Ousmane Diop du Sénégal. C'est ma première fois ici au FIMA et je suis vraiment content d'être là, de voir toute l'Afrique se réunir, faire la fête, faire le FIMA. Je suis vraiment content.
Ils étaient une centaine, habillés par des créateurs et stylistes tout aussi lointains que divers.
Flaminia Meshulam de Londres. Je fais une collection de femmes prêtes à porter. Il y a des robes, mais il y a aussi des pantalons. Et c'est assez relax.
Karen Yaoumbra, je suis styliste modéliste de nationalité ivoirienne. Ma collection, c'est une collection de 8 vêtements, dont 5 hommes et 3 femmes. Donc dans le style tout blanc, avec des motifs très colorés qui ont été peints par moi. Donc c'est de la peinture textile sur tissu.
Cette 10e édition du Festival international de la mode africaine devait se tenir en 2015 à Niamey, mais elle a été reportée à cette année pour des raisons sécuritaires. Qu'elle se soit tenue à Agadez, ville frontalière de l'Algérie et de la Libye, réjouit à plus d'un titre les autorités nigériennes. Assoumana Malam Issa est le ministre de la Culture.
Un sentiment de satisfaction qu'elle se tienne au moment où nous sommes en train de faire les festivités du 18 décembre et au moment où on pense à travers le monde que le Niger est un pays insécure, mais Donc voilà, nous sommes en train de démontrer que Agadez et le Niger sont en paix, malgré les menaces qui sont réelles, qu'il ne faut pas ignorer. Et nous avons donc le sentiment d'avoir réussi un pari.
20 ans après la première édition, le FIMA revient donc à Agadez, aux portes du désert où il est né. Sedna Ali, dit Al-Fadi, est le promoteur.
C'est un festival créé pour le désert. Aujourd'hui, il est revenu ici, donc c'est une image extraordinaire. En plus, ce qui est très intéressant dans ça, c'est que je viens d'être nommé depuis un an comme artiste pour la paix de l'UNESCO et la ville de l'Agadez est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc pour moi, ça n'a pas de prix.
Abdullah Razak Idrissa, de retour d'Agadez pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Retour sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, 3 ans après, début de notre série sur VOA Afrique. C'est en 2013 qu'un virus méconnu apparaît dans le sud de la Guinée. À l'époque, on parlait d'une maladie mystérieuse. Plusieurs familles disparaissent sans que l'on ait une idée claire de la maladie. C'est le point de départ d'une épidémie qui va toucher d'autres pays de la sous-région. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, s'est rendu à Miliandou, dans la préfecture de Gikedou, pour VO Afrique.
Tout a commencé par la maladie d'Émile, 2 ans. Nous sommes en décembre 2013. C'est Augustin Mamadouno, chef de poste médical de Miliandou, qui examine l'enfant malade.
J'ai reçu au poste ici, j'avais reçu un enfant avec son papa. L'enfant s'appelait Émile. Et l'enfant avait la fièvre intense. On avait fait le TDE pour connaître si juste il avait quel problème. Et l'enfant avait le pali plus IRA. Donc on a traité le premier jour, puisque le traitement du paludisme, c'est 3 jours. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, dans les bandes de 21h, l'enfant a rendu rame.
Émile, décédé, quelques jours plus tard, c'est sa grande sœur Philomène qui rend l'âme après avoir présenté les mêmes symptômes. C'est alors que le village s'interroge. Diables, esprits, sorciers sont accusés d'avoir jeté un mauvais sort.
On est parti chercher le marabout là, ils sont venus. Il nous dit de payer 1 500 000. La population a payé les 1 500 000, plus des corps, des vaches, pour travailler les villages. Même quelqu'un veut venir maintenant avec le médicament. Et le médicament qui était en train de tuer les gens là, j'ai pris ça. Mais personne n'est plus venu avec d'autres médicaments. Il a arrangé.
Le virus Ebola, encore méconnu, était plus fort que le gris-gris. Après Émile et sa sœur, sa maman enceinte de 7 mois tombe malade puis décède. C'est la panique au village, au moment même où le chef de poste médical inquiet ordonne l'évacuation de la grand-mère d'Émile. 2 jours après son admission à l'hôpital, la malade est morte sous les yeux de ses 3 filles.
Les 3 là sont venus. Avant qu'on finisse l'enterrement, cela a présenté la fièvre. Pape, sa sœur a présenté la fièvre. Hélène aussi a présenté la fièvre. Les 3, avant l'enterrement déjà, non, les 3 là n'étaient plus au dehors. Mais dans celle qui était mariée de l'autre côté, il dit, ah, vraiment votre village là, moi je vais me retourner. Elle s'est retournée, mais avec la fièvre. Hélène aussi a dit, non, je vais quitter. Mais ta sœur, elle était là. Ils sont partis après, un jour, deuxième jour, ça a été décidé. Parce qu'en ce temps, j'ai appelé MSF.
Devant des décès en série, le village se vide. Enoch est rentré il y a quelques jours, après plusieurs mois passés ailleurs.
On a dit, si on reste ici, on ne va rien gagner. On dirait qu'il y a la mort. Nous, on ne gagne rien comme agent. Moi, ce que je vais voir, on va aller à Sigri. Donc, tous nos amis, on a profité. On était beaucoup même. Il y a les gens qui sont là-bas, ils n'ont pas venu.
Avant son décès, l'enfant de 2 ans a passé quelques jours de traitement chez le guérisseur du village en compagnie d'une dame malade en provenance de la Sierra Leone. Son père, Étienne, accuse l'étrangère d'avoir contaminé son enfant.
Il veut aussi n'aller.
La belle-mère était très d'accord avec la femme qui était venue de la Sierra Leone, qui était en traitement chez Nassau. Et moi, je n'étais pas d'accord tellement avec ma belle-mère. Et généralement, quand elle venait saluer la femme, elle avait toujours mon enfant au dos. En réalité, c'est cette femme de la Sierra Leone qui a contaminé mon enfant. Mais puisqu'on n'a pas compris très tôt, quand la maladie a persisté dans le temps, les visiteurs venaient chez nous, j'ai compris réellement que c'est cette dame qui a contaminé mon enfant.
Du retour de Meliandou, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.